que avait shooting déjà.
Digo de Radio France Internationale,
mais c'est non directement.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde pour les temps forts de l'actualité de la semaine, puis ceux qui ont fait un choix particulier, une actualité traitée sur RFI et nulle part ailleurs. Ce soir, pour la rédaction en espagnol, c'est Natalia Olivares.
Buenas noches.
Silvano Mendes, de la rédaction brésilienne.
Buenas noches.
Et Pizemam, de la rédaction cambodgienne.
Sousnaï Philippe.
Bonsoir à vous tous. Alors la France tourne une page de son histoire politique avec l'élection de son 8e président de la 5e République. L'homme est neuf, l'extrême droite était en embuscade, les partis traditionnels ont été sortis dès le premier tour, les hommes qui faisaient la vie politique française depuis 40 ans ont été remerciés. Cette élection aura donc des conséquences bien plus importantes que les précédentes. Vous avez pu suivre tout cela sur les antennes de RFI en français, mais comment les rédactions en langues étrangères couvrent-elles l'événement? Qu'est-ce qui retient leur attention? C'est tout de suite dans Accent du Monde.
Francia tiene un nuevo presidente.
El candidato de centro, Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, el candidato del naciente partido En Marcha, será el nuevo presidente de Francia.
Con 39 años, Emmanuel Macron se convierte en el presidente de Francia.
Voilà, c'est ce qu'on pouvait écouter sur des médias sud-américains en début de semaine. Le presidente a fait couler beaucoup d'encre. On a pu voir ici à Paris de nombreux envoyés spéciaux, de nombreuses télévisions. Natalia Olivares, beaucoup cherchent aussi à faire des comparaisons comme si chaque pays avait son propre Macron.
Effectivement, et on va passer rapidement avec les comparaisons les plus évidentes qu'on a pu voir aussi ici à Paris, ce sont celles avec Barack Obama, par exemple, et Justin Trudeau, tant sur la forme que sur la politique. En ce qui concerne Barack Obama, les médias ont aimé faire le parallèle avec la manière dont Macron a construit sa campagne avec toute une armée de jeunes bénévoles qui sont venus de toutes parts et sa manière aussi de construire son image médiatique. Le Obama français qu'on a entendu ici, inventé par une de ses porte-paroles, a été bien repris en Amérique latine d'ailleurs. Et pour aller vite au Canada, on a vu aussi en Macron un certain Justin Trudeau pour sa jeunesse et son style décontracté. Deux jeunes loups aux plus hautes sphères du pouvoir. Et pour aller assez rapidement aux pays hispanophones comme au Mexique, par exemple, dans l'élection de Macron, on a surtout vu un vote contre Marine Le Pen et donc un vote moins virulent envers les migrants, donc un soulagement. On peut écouter l'explication de ce politologue mexicain qui nous a parlé sur nos antennes.
La victoria de Macron, al menos por el momento.
Alors, il s'appelle Lorenzo Meyer.
Voilà,
et
ça.
Il vous dit quoi?
Lorenzo Meyer nous dit le soulagement de voir qu'en France, Marine Le Pen a été battue, puisqu'en ce qui concerne les projets migratoires de Marine Le Pen, elle a été assez comparée à Donald Trump, qui lui voit les émigrés mexicains comme un vrai danger pour son pays. Le Mexique étant, je le rappelle, Philippe, une victime directe de la politique nationaliste et protectionniste du président des États-Unis.
Pour ce qui est de l'Argentine maintenant, et du Chili, hein, chaque camp politique a voulu récupérer cette victoire d'Emmanuel Macron, ce qui a créé beaucoup de débats.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et cela devient à la limite tragicomique, car comme Macron affiche une politique ni de droite ni de gauche, eh bien, nous avons vu autant d'hommes politiques s'octroyer ou essayer de s'octroyer une ressemblance, quelle qu'elle soit, avec le président Macron. Cela se passe en France, mais aussi en Amérique latine. Au Chili, tous les partis de la coalition au pouvoir, de centre et centre-gauche, ont vu en Macron un peu leur victoire, et ça, en pleine période de campagne électorale, ça sert, c'est une bonne opportunité. On peut dire aussi que l'opposant ultralibéral, Sébastien Piñera, a aussi lui tenté l'exercice, mais il a été vite remis à sa place par une sociologue qui lui a retorqué « S'il vous plaît, monsieur, ayez la décence de ne pas vous comparer à une personne qui a étudié la philosophie. » On rappelle que Piñera est le Sarkozy des Andes au Chili, et ça, évidemment, ça fait le tour de la toile. En Argentine, on peut aller rapidement en Argentine,
rapidement.
On a le temps, parce que c'est assez marrant, le président Mauricio Macri, donc on peut remarquer la ressemblance entre Macri et Macron, sauf qu'en espagnol, Macron, c'est le superlatif de Macri. Donc, ça fait le petit Argentin Macri et le grand Macron français.
D'accord.
Voilà.
Pour ce qui est de la,
dans les médias.
Pour ce qui est du Brésil, en tout cas, la rédaction brésilienne, Silvano Mendes, vous êtes intéressé, vous, à des aspects du programme d'Emmanuel Macron qui ont été peu développés, finalement, peu commentés. C'est la question de l'environnement et la question de la précarité.
Oui, parce que même si la campagne d'Emmanuel Macron était très axée sur la modernisation de l'économie, la rénovation de la vie politique et la défense de l'Europe, sa politique sociale est moins évidente. Certes, il a promis deux mesures phares visant surtout le pouvoir d'achat. Il y a d'abord d'abord la réduction des cotisations sociales pour les salariés et les indépendants et la promesse d'exonérer 80% des ménages et des taxes d'habitation. Mais sur le chômage, c'est un peu plus nuancé. Si d'un côté, il souhaite ouvrir les droits à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent, Macron veut que le refus d'une offre d'emploi puisse entraîner la suspension des allocations, comme c'est déjà le cas d'ailleurs dans d'autres pays comme en Angleterre où les chômeurs ne peuvent pas refuser une offre d'emploi. Philippe.
Emmanuel Macron a également promis certaines mesures en matière d'éducation, y compris avec l'engagement d'inciter la discrimination positive. Alors ça a peut-être été vu aussi comme une mesure d'ordre social. Pardon. Dans quelle mesure, Silvano ?
Oui, c'est vrai que Emmanuel Macron a fait quelques promesses sur des questions sociales, notamment dans le domaine de l'éducation primaire. Il veut par exemple diminuer le nombre d'élèves dans les classes de CP et CE1, dans les zones d'éducation prioritaire, et ce dès la rentrée prochaine, ce qui d'ailleurs est assez ambitieux. Il propose aussi de verser une prime aux entreprises qui recrutent en CDI un candidat issu des quartiers prioritaires. Il dit clairement que tout ça s'inscrit dans une logique de discrimination positive, mais on crie déjà à l'effet d'annonce, surtout parce que dans les faits, le nouveau président ne propose rien de nouveau. C'est d'ailleurs ce qui nous signale la sociologue Angelina Peralva de l'Université de Toulouse, qui travaille justement sur les questions liées à la précarité dans les quartiers défavorisés. On l'écoute.
La France implémentou politiques de discrimination positive indirectement.
Que dit-elle ?
Elle nous rappelle que les propositions d'Emmanuel Macron présentées comme étant de la discrimination positive existent déjà en France, notamment par le biais de la mise en place d'un traitement différencié dans les zones d'éducation prioritaire, les fameuses ZEP. Cette discrimination positive passe aussi par le traitement social du chômage, plus adapté aux périphéries urbaines. D'ailleurs, cette sociologue souligne que même si les résultats de ces politiques n'ont pas forcément été les meilleurs, cela existe en France, au moins depuis l'élection de François Mitterrand au début des années 80. Donc rien de nouveau. Et juste un mot sur l'environnement. Macron a aussi une politique qui n'est pas très claire. Il veut par exemple faire de la France le leader mondial de la recherche sur la transition environnementale. Il promet d'ailleurs de doubler aussi la production d'énergie éolienne et nucléaire d'ici 2022. En revanche, on sait très peu sur comment il compte mettre en place toutes ces mesures et surtout comment il compte les financer, Philippe.
Comme on dit, affaire à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, pis et mam, c'est que personne n'a vu véritablement arriver Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il y a 3 ans, qui aurait pu imaginer un tel événement ?
Oui, en effet, Philippe, son mouvement En Marche a été créé en avril 2016, à peine un an avant l'élection. À 39 ans, il a réussi son pari en misant sur la force qu'il veut incarner, c'est-à-dire le renouveau. On peut observer aussi la décomposition du paysage politique français, également avec l'élimination jamais vue du candidat socialiste Benoît Hamon et du candidat Les Républicains François Fillon. C'est du jamais vu qu'aucun des deux partis traditionnels ne soit présenté au second tour de la présidentielle.
Alors, on l'a dit, hein, ce sont toutes les forces politiques à la veille des législatives qui sont touchées par cette recomposition, y compris au Front National. Pis et mam, le Front National va conquérir cette élection pour devenir la principale opposition. En tout cas, il va essayer d'être hyper présent aux législatives pour emporter le plus grand nombre de députés.
Oui, Philippe, mais cela me paraît assez improbable car le Front National est en plein doute après le score décevant de Marine Le Pen. Et en plus, avec les dégâts occasionnés par son débat raté, on a bien vu qu'elle était très critiquée, même au sein de son parti. Donc, chaud assez rare, en fait, au Front National. Enfin, intervient dernièrement le retrait de la vie politique de Marion Maréchal Le Pen. Cela montre aussi des signes de fragilité au sein de Front National.
Et puis, la ligne politique de Florian Philippot pourrait être critiquée ouvertement en cas de score décevant aux élections législatives. C'est ce à quoi vous ferez très attention.
Tout à fait.
Disait même. Emmanuel Macron qui sera donc investi dimanche matin et ce sera à vivre en direct sur RFI entre 10h et midi heure française.
This is Radio France International.
Paris, RFI, $100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Et une fois encore, faisons un point sur la crise politique qui secoue le Brésil. Vient d'avoir lieu la première comparution de l'ancien président Lula devant le juge anticorruption Sergio Moro. Alors l'icône de la gauche latino-américaine est accusée d'avoir reçu un appartement de luxe dans une station balnéaire brésilienne en guise de pot de vin. Alors à la rédaction brésilienne, Silvano Mendes, vous avez bien évidemment suivi cette nouvelle péripétie.
Oui, nous avons suivi de très près cette affaire parce que l'ex-président Lula est accusé d'être mêlé à 5 procédures judiciaires liées à un énorme scandale de corruption. Mais la comparution de cette semaine, même si elle ne concerne qu'une de ces affaires, elle représente la première fois que l'ancien chef d'État répondait directement aux questions de ce juge anticorruption. Lula rejette ces accusations et dénonce ce qu'il appelle une chasse aux sorcières politiques. Et ses partisans le soutiennent lors de son arrivée. Arrivé au tribunal, plusieurs de ses supporters, des parlementaires, mais aussi l'ex-présidente Dilma Rousseff, destituée il y a un an, ont exprimé leur soutien. Guerrier du peuple brésilien, Lula, le combattant du peuple brésilien, criait ses supporters, comme les milliers de partisans de l'ex-président qui ont se sont déplacés à Curitiba, dans le sud du Brésil, afin de leur montrer leur soutien. Pendant presque 5 heures de déposition, Lula a répondu aux questions de juge Moro sur cet appartement. Il a nié encore une fois toute implication dans ces réseaux de corruption. Il a même dit qu'il s'agit d'un procès illégitime et que pour lui, tout ça, c'est une mascarade.
Donc, Lula n'est plus président, sa protégée Dilma Rousseff, elle, a été destituée. Pourquoi est-ce que toutes ces affaires continuent de fasciner la classe brésilienne?
Eh bien parce que le Brésil se prépare déjà pour les élections présidentielles en 2018 et l'ex-président Lula, qui reste toujours très populaire, est un candidat pressenti et il a fait même figure de favori selon un sondage publié il y a une dizaine de jours. D'ailleurs, en sortant de l'audience ce mercredi devant la justice, Lula a transformé cet événement en meeting politique et a fait un discours très applaudi devant ses supporters. On écoute un extrait.
Ser julgado apenas pela justiça, eu quero antes ser julgado pelo povo brasileiro que me deu por isso.
Alors il dit qu'il ne veut pas être jugé seulement par la justice, mais il veut avant tout être jugé par le peuple brésilien qui lui a donné la force. Il dit également devant ses militants que le temps va montrer que jamais dans l'histoire brésilienne quelqu'un a été aussi persécuté et massacré que lui. Néanmoins, même si Lula semble compter encore beaucoup sur ses supporters et sa popularité, on se pose déjà la question de l'impact de ce procès sur son image et aussi sur sa légitimité en tant que candidat, puisque si jamais ce procès va plus loin, par exemple, avec une mise en examen, Lula est forcément exclu de la course présidentielle. Il va falloir attendre encore quelques semaines avant d'avoir le verdict. Mais si Lula est reconnu coupable et la décision est confirmée en appel, il encourt une peine de prison et surtout, il risque de mettre fin à sa vie politique.
Silvano Mendes de la rédaction brésilienne de RFI. 4 soldats cambodgiens sont morts dans une attaque d'un convoi de casques bleus. C'était en Centrafrique lundi dernier. Pizemam de la rédaction cambodgienne, justement, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement?
Oui, Philippe, le convoi de l'ONU a été attaqué par des éléments armés, c'est le terme qu'ils ont utilisé, vers 20h lundi 8 mai, c'est un axe du sud de Centrafrique. La mission des Nations Unies avait, dans un premier temps, annoncé la mort de 4 casques bleus cambodgiens. Ce premier bilan faisait également état de 10 casques bleus blessés, dont un Cambodgien et 9 Marocains. L'un des casques bleus cambodgiens a été tué dans l'échange de feu, de même que 8 assaillants. Les corps de 3 autres casques bleus cambodgiens ont été retrouvés mardi, mutilés et sauvagement assassinés, selon le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique. Et jeudi, l'ONU a confirmé qu'un corps d'un 5e casque bleu a été retrouvé. Il s'agit d'un soldat marocain porté disparu depuis le jour de l'attaque. La force onusienne parle de groupe armé anti-Balaka. C'est un groupe principalement chrétien dont la confrontation avec les rebelles, c'est les cas pro-musulmans, a plongé le Centrafrique dans le chaos à partir de 2013.
Donc cette attaque, on le rappelle, a coûté la vie à 4 soldats d'origine cambodgienne et ça, bien sûr, fait réagir le Premier ministre Hun Sen.
Oui, Philippe, comme d'habitude, le Premier ministre Hun Sen a fait un discours de presque 2 heures lors d'un rassemblement des anciens combattants le 10 mai. On va l'écouter.
សម្រាប់ការបាត់បង់របស់យើងនេះយើងអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវចាត់ចែងកម្លាំងឬការរៀបចំ
Alors il a dit que nous n'allons pas remettre en cause le travail de la force onusienne en Centrafrique mais c'est sûr qu'il y a des choses à revoir et à améliorer. Il demande que l'ONU augmente les effectifs et réorganise la mission en Centrafrique afin d'éviter des futures attaques. Il demande aussi que l'autorité cambodgienne puisse avoir accès aux documents et la carte de trajet du convoi pour mieux analyser la situation. Mais si on l'écoute bien jusqu'à la fin, il est clair que le premier ministre cambodgien ne connaît pas du tout la situation en Centrafrique. Il profite de cette occasion pour faire de récupération politique en rappelant pendant des longues minutes de ses combats pour la paix au Cambodge. Il s'affiche comme le seul garant de la cohésion et l'efficacité de l'armée cambodgienne. Le message est même envoyé à l'opposition que l'armée est prête pour réprimer toute tentative et contestation. Les élections municipales au Cambodge arrivent dans un mois et cet événement tragique en Centrafrique ne fait que renforcer l'image de M. Hun Sen en tant que chef de l'armée et père de la nation.
Pizemam de la rédaction cambodgienne de Radio France Internationale. Une cinquantaine de langues et de dialectes sont en voie de disparition en Amérique centrale. Plus largement en Amérique latine, depuis la conquête des Espagnols, beaucoup de langues sont mortes. Et selon les Nations Unies, plus de 600 pourraient disparaître. La rédaction Amérique latine de RFI a donc fait le point sur les différentes façons de les protéger, ces langues, Nathalie Olivares.
Voilà, et que je vous propose d'écouter, pour commencer, une de ces langues.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, il s'agit de la langue Wanana. Je ne vais pas pouvoir vous faire la traduction littérale, mais bon, c'est une personne qui défend sa culture et qui défend sa langue. La langue Wanana est parlée dans une région du Panama par à peu près 1 million de personnes et qui cherche, comme les autres langues, à survivre. Alors, au Costa Rica, par exemple, il y a 50 langues indigènes en danger. Eh bien, plusieurs experts ont partagé leur stratégie et on en a trouvé plutôt des étonnantes à la rédaction, comme celle qui consiste à aller dans les réserves, à écouter la langue, la transcrire et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, trouver un mode d'emploi ou alors des règles de grammaire pour pouvoir la transmettre par écrit et non pas seulement par l'oral et après vient toute l'élaboration de dictionnaires, etc.
Venons-en aux travaux de recherche pour que ces civilisations ne s'éteignent pas. Au Salvador, il y a des trouvailles des plus étonnantes, comme par exemple des séjours linguistiques faits, réalisés dans les réserves.
Voilà, et plus précisément des séjours linguistiques en immersion pour les très jeunes enfants, car il s'agit en fait de crèches en langue nahuatl-pilpil. Et on a interrogé à ce sujet le linguiste Georges Lemus, on l'écoute.
En El Salvador, la llegada de los españoles, habían 8 lenguas distintas.
Quel est son commentaire, son analyse?
Alors voilà, il explique qu'ils ont mis en place des crèches dans les réserves indigènes pour que les personnes puissent apprendre directement la langue nahuatl-pilpil. C'est la seule langue qui a survécu à la conquête espagnole, la seule parmi les 8 qui existaient auparavant et qui aujourd'hui est parlée par 150 personnes. Eh bien, ce sont les grands-mères, en fait, qui gardent en demi-journée les jeunes enfants. Ils n'ont pas de contact à l'extérieur, seulement avec elles, et elles ne leur parlent qu'en nahuatl-pilpil. Ces 150 enfants ont déjà obtenu leur diplôme et parlent maintenant couramment cette langue. Il y a aussi des cours de nahuatl-pilpil en ligne. Philippe, si ça vous intéresse, ça pourrait ajouter une langue. Voilà. Et ça vous éviterait de parcourir autant de kilomètres pour arriver en Amérique centrale.
Absolument.
Alors, je vous propose, je ne sais pas si on peut.
Oui, écouter, bien sûr.
Voilà. Alors, c'est un morceau d'Andy Palacio. Je peux faire une petite introduction.
Allez-y.
Qui mixe plusieurs langues, la langue de l'arawak, le yoruba, l'anglais et l'espagnol, et aussi le français. C'est un clair hommage à une culture en voie de disparition au Belize, en Amérique centrale, où vivent les Garifunas. C'est un peuple afro-amérindien, né d'un métissage entre les esclaves naufragés et les indiens arawak qui les ont recueillis pour les protéger.
Allez, on écoute.
Voilà.
Voilà pour ces langues venues du Belize, avec un medley, tiens, on va rajouter un petit peu d'anglais dans tout ça. Et ben, les langues étrangères, 14 langues étrangères sur Radio France Internationale. Donc, à nous écouter sur toutes les antennes et à vous lire sur tous les sites internet de RFI.